Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est la trame sonore de l'émission Survivor Québec, populaire télé-réalité que vous connaissez, qui est diffusée à nouveau. Je veux vous parler d'une de ses participantes. Elle s'appelle Deborah Debrakeller. Fait partie de Survivor et son métier dans la vie, c'est d'être enseignante. Elle enseigne au primaire. Elle est à l'emploi. Elle était à l'emploi du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe depuis 11 ans et enseignait en troisième année à l'école primaire Saint-Thomas-d'Aquin depuis 9 ans. J'utilise le passé. Pourquoi? Parce que la décision d'aller à Survivor Québec a mené à son congédiement. On va aller parler avec Mme Debrakeller immédiatement. Elle est au bout du fil. Bonjour, madame.
Bonjour.
Donc, d'abord, peut-être nous raconter les circonstances qui ont mené à la décision du Centre de service scolaire Saint-Hyacinthe de vous congédier tout récemment.
Donc, ça s'est passé quand j'ai su, en fait, que j'étais dans les auditions pour être peut-être prise à Survivor Québec. J'ai fait les démarches auprès de ma commission scolaire. J'ai demandé, sans leur préciser où j'allais, parce que ça reste bien sûr confidentiel, et je leur ai demandé si c'était possible que je prenne un congé sans solde entre 2 semaines et 2 mois. Et suite à ça, ça a été catégorique. La décision a été très vite prise. On m'a dit que ce n'était pas possible suite à la pénurie d'enseignants et qu'ils voulaient garder leur suppléant pour des personnes qui tombent en congé maladie. Donc, que je sois partie pour Survivor ou autre chose, je pense que c'était refusé. Ensuite, j'ai discuté avec ma direction quand même de la possibilité que je parte quand même. Et on s'est dit, peut-être que si je trouvais moi-même une suppléante, puisque c'était surtout ça le problème, c'est qu'ils voulaient garder les suppléants pour les profs en congé maladie. Donc, quand j'ai su que j'étais sélectionnée, que j'étais dans les 20 candidats, je me suis dit, je peux pas faire autrement. Je vais y aller. C'est l'expérience d'une vie, une expérience enrichissante. Et je me suis toujours dit, c'est pas vrai que c'est un métier qui va me dicter ma vie. Donc, je me suis dit, mais je vais quand même partir en faisant les choses convenablement. Je peux pas partir en laissant mes élèves sans personne, sachant qu'il y a une pénurie d'enseignants. Donc, j'ai trouvé une enseignante qui est une enseignante à la retraite, qui a décidé de revenir dans ma classe. Donc, je ne prenais vraiment pas une enseignante qui était sur leur liste, en fait. Si elle vient chez nous, elle vient à Saint-Thomas-d'Aquin pour faire du tutorat, mais elle ne prend pas une classe à 100%. Donc là, elle avait décidé d'être dans ma classe pendant, en fait, le 2 semaines à 2 mois. J'ai planifié les 2 mois au complet, ne sachant pas quand j'allais revenir. J'ai planifié, en fait, mes photocopies. J'ai fait une lettre aux parents qui allait être envoyée le 7 février, la date où étaient annoncés les 20 candidats de Survivor Québec. Ensuite, j'ai fait une vidéo à mes élèves pour leur expliquer que oui, j'étais partie parce que bien sûr, j'ai pas pu leur dire au revoir parce que c'est resté secret tout le long. Donc, quand ça a été dévoilé, j'ai fait une vidéo à mes élèves pour leur dire oui, je pars, mais je pars avec vous dans mon cœur. Je vais revenir le 2 avril, je vais être là. Je leur ai expliqué que je partais pour les Philippines. Je leur ai dit de préparer des choses pour les Philippines. Donc, j'ai essayé d'apporter le petit côté pédagogique à ça. Je leur ai dit qu'on ferait des choses par rapport à Survivor, je leur ai expliqué que c'était le défi d'une vie, que c'était vraiment le dépassement de soi, que c'était de la motivation, de la persévérance, tout ce qu'on voit finalement dans une école, toutes les valeurs qui vont être une école.
Madame Debrakeller, je vous interromps parce que j'ai quelques questions. D'abord, l'enseignante que vous avez recrutée, une enseignante à la retraite pour vous remplacer, elle n'était pas dans, disons, le groupe de suppléants habituels. Donc, vous ne preniez pas une suppléante qui aurait pu aller remplacer des congés urgents de maladie.
C'est ça. En fait, elle était dans le groupe, mais elle refusait tout ce qui était en dehors de l'école Saint-Thomas-d'Aquin. C'était vraiment une enseignante qui n'acceptait que Saint-Thomas-d'Aquin parce qu'elle était à la retraite.
Okay.
Et elle était déjà à Saint-Thomas avant. En fait, elle a fini sa carrière là et elle ne faisait que du tutorat, en fait. Elle
Je
ne
comprends.
Voulait pas prendre un contrat.
Prochaine question. Quand le centre de service scolaire vous a refusé le congé, Vous avez décidé de partir quand même. Oui. Est-ce que vous avez pas pensé que, justement, vous pourriez être congédié?
Oui. En fait, j'avais posé la question. J'ai dit, bon, là, vous me dites que je dois prendre mon congé, mais si je décide quand même de partir... Ils m'ont répondu que je pouvais avoir une mesure disciplinaire et ça pouvait aller jusqu'au licenciement. Donc, je le savais que ça pouvait aller là. Mais j'avais parlé aussi avec mon syndicat qui m'avait dit que ça pourrait être possible, mais ça m'étonnerait qu'ils se rendent là. Mais ça pourrait être possible qu'ils fassent de toi comme la première personne, tu sais, qu'ils vont licencier parce que tu as fait preuve d'insubordination. Mais je me suis dit, je suis une enseignante qui est quand même... dévouée à son métier. Je suis enseignante, ça fait 11 ans que je suis dans cette commission scolaire-là. Je n'ai pas de tâche à mon dossier. Je n'ai jamais rien fait, en fait. Donc, je me suis dit, s'il y a à faire quelque chose, ça ne sera sûrement pas ça la première chose qu'ils vont me dire. Ça ne va pas être « je vous licencie ». Ils vont peut-être me dire, exemple, pendant un mois, ben, tu es sans solde ou tu viens un mois à l'école, mais tu n'es pas payé. Je me voyais faire ça. Donc, oui. Je prenais le risque parce que je me disais, comme j'ai pas de tâche à mon dossier, ça devrait être ça.
Mais vous saviez qu'il y avait un risque et que, ultimement, ce risque-là, c'est le congédiement?
Je le savais. Mais, okay. Comme je vous dis, je pensais que la sanction allait être moins pire, sachant que j'avais un dossier nickel.
Et, pour être clair, là, l'enseignante que vous avez recrutée, l'enseignante à la retraite, c'est elle qui s'occupe de vos jeunes présentement en troisième année?
C'est elle qui s'occupe de mes jeunes avec une autre enseignante parce qu'elle a fait comme... Ils ont comme mélangé, on va dire, la semaine. Elle venait comme 3 jours, puis l'autre enseignante venait 2 jours, puis l'autre enseignante, c'est une enseignante déjà de notre école qui est déjà à 20% dans d'autres classes. Donc, elle ne pouvait pas non plus remplacer à 100% ailleurs.
OK. Là, pendant qu'on fait l'entrevue, Mme de Braqueller, là, les gens m'écrivent. Disons que votre cas ne suscite pas beaucoup de sympathie. Par contre, non. Je dois le dire, les parents des enfants à qui vous enseignez, eux semblent vous soutenir à 100%. Ils sont extrêmement déçus que vous soyez parti, là, selon les échos qu'on a pu recueillir.
Oui, vraiment, parce qu'ils voyaient vraiment du potentiel dans ça. Je m'en vais faire Survivor, c'est quand on revient d'une expérience comme celle-là, on veut montrer aux enfants qu'on fait preuve de persévérance, de motivation, de dépassement de soi, qu'on est capable de réaliser ses rêves. Puis ça montre finalement aux enfants que, tu sais, oui, réalise tes rêves, mais tu pourrais être tassé des rêves que tu essaies de réaliser. Puis je le sais que les élèves, ils attendaient ça avec impatience, que je revienne, que je partage mon aventure avec eux. On avait même décidé qu'au mois de mai, on ferait un Survivor dans l'école. Oui. Parce que le mois de mai, c'est le mois de l'activité physique.
Mais je vous soumets des commentaires que je reçois, OK? Oui. Des gens me disent, ben écoutez, c'est une prof. Les enfants ont besoin de leur prof. La prof s'en va faire une émission de télé-réalité. Pourquoi est-ce que les enfants devraient payer pour ça?
Les enfants, c'est sûr qu'on pense qu'ils paient pour ça, mais je les ai préparés avant de partir. La personne est venue dans ma classe sans qu'ils sachent qu'elle allait être là pour les remplacer. Mmh. J'ai déjà créé le lien avec cette personne-là. Elle est venue, on a fait un projet avec elle, on a commencé des situations d'écriture. Tout doucement, en fait, j'ai mis le lien pour que la cassure entre mes élèves et moi soit moins forte. C'est sûr que peut-être ils ont été tristes de me quitter, mais là, la joie de savoir que je suis revenue. Vous pouvez pas savoir l'immense bonheur. Ils attendent juste ça, que je sois de retour et que je partage avec eux l'expérience d'une vie que j'ai eue.
Si je vous dis, Mme de Braqueller, qu'il y a une de vos collègues candidates de Survivor Québec qui enseigne au privé à Montréal au secondaire, qui, elle, n'a pas eu de problème du tout à avoir un congé, qu'est-ce que ça vous dit?
Ben, je l'ai su hier, ça, puis ça m'a peiné beaucoup. J'ai eu beaucoup de peine. Je me disais, j'aurais aimé... le vivre de la même façon, avoir la même reconnaissance, avoir une reconnaissance du style comme elle a eu en disant « Waouh, elle est partie vivre une aventure incroyable, ça fait preuve de persévérance, ça fait preuve de dépassement de soi, de détermination et on l'encourage à continuer. » Puis quand elle revient, c'est comme, elle est vue comme, on va dire, un héros. Moi, je suis obligée de me battre pour essayer de garder mon poste puis d'essayer de revoir mes élèves. Parce que hier, j'ai été dans mon école, j'ai voulu revoir mes élèves et on m'a interdit de les voir.
Merci, Mme de Braqueller. Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Patrick Théroux est président du syndicat de l'enseignement Valmasca FSE CSQ. M. Théroux, bonsoir.
Bonsoir, M. Lagacé.
Est-ce que ce n'était pas la conclusion logique, le risque logique, le congédiement pour ce que Mme de Braqueller a fait, c'est-à-dire ne pas se présenter au travail?
Bien, c'est effectivement le risque auquel elle s'exposait qui est prévu dans notre convention collective, oui.
Maintenant, elle a été...
Est-ce qu'il y aurait pu avoir une question de jugement dans cette situation-là? et de valoriser ce qu'elle a fait, un peu à l'image du Collège de Montréal, comme vous venez de le mentionner, ben moi je pense que oui, et puis je pense que le centre de service a manqué une belle occasion de valoriser un prof. Mais dans cette situation-là.
Mais quand votre membre est parti, Mme de Braqueler, elle savait là, qu'elle n'avait pas la permission. Comment, oui. Expliquez-moi comment ça marche. Elle a choisi sa successeur. Je veux dire, on lui a pas donné le congé, mais on a pris sa suggestion de prendre l'enseignante à la retraite.
Effectivement, elle a dit, puis que c'était la direction était en accord avec sa démarche de prendre une enseignante à la retraite qui était enseignante dans cette école-là avant de prendre sa retraite et qui vient seulement faire du tutorat dans l'école et qui a accepté de remplacer pour elle en combinaison avec une autre enseignante là, parce qu'elle faisait pas les 5 jours, mais quand même, elle s'est assurée que les personnes qui la remplaçaient pendant son absence, c'était des personnes qualifiées. On le sait que c'est un enjeu, là, la pénurie, là, puis d'avoir des personnes qualifiées dans la classe, ben ça venait un peu rassurer les parents dans la situation. Puis c'est ce qu'elle a fait. Elle a été professionnelle jusqu'au bout en sachant qu'elle s'exposait à cette sanction-là.
Merci, M. Théroux. Bonne soirée.
À vous aussi.
Patrick Théroux est président du syndicat de l'enseignement Valmasca FSE CSQ. Je lis vos commentaires dans la messagerie au 98985. C'est assez divisé, je dois le dire. Des gens qui disent, pauvre titre, t'avais juste à pas partir à la télé. Des gens qui disent, comme prof, on devrait pouvoir prendre des congés aussi, des sans-soldes. Je veux juste vous dire une ou deux choses là-dessus. Je couvre l'éducation souvent. D'abord, il y a souvent un manque de flexibilité du côté des RH dans les centres de services scolaires et ça participe au fait qu'il y a des profs qui veulent sacrer leur camp. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, la sacrée dehors, c'est bon pour qui? Les élèves de troisième année de l'école Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Hyacinthe, là, sont-ils plus avancés maintenant qu'on a sacré la prof dehors pour insubordination? Si elle était partie en sauvage, en laissant rien derrière elle, en pensant qu'elle allait reprendre son poste, Mme de Braqueler, je pourrais comprendre. Elle a fait le détour, elle a fait l'effort d'aller chercher pas n'importe qui, pas une prof non légalement qualifiée, une enseignante à la retraite. Elle a facilité le lien avec les élèves. Honnêtement, dans ce cas-là, personnellement, je trouve que c'est un grand, grand manque de flexibilité de la part du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Et c'est un grand manque de flexibilité, ma foi, qui est symptomatique de ce qu'on retrouve souvent dans ces bébites un peu incompréhensibles parfois que sont les centres de services scolaires.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
En fin de semaine, j'ai lu un livre absolument fascinant, L'homme aux mille visages. C'est pas un roman, c'est une enquête de type journalistique. Le livre commence avec une histoire d'amour, celle de Marianne et d'Alexandre, un chirurgien parisien d'origine brésilienne. Et en 2015, le chirurgien Alexandre va opérer des blessés de l'attaque terroriste du Bataclan. Et quand il revient à la maison, il est atterré, sonné d'avoir vu des gens mourir comme ça. Et là, ce soir-là, il décompresse avec sa compagne Marianne et deux de leurs voisins. Il leur raconte l'horreur dont il a été témoin à l'hôpital. Le seul problème, comme Marianne va le découvrir plus tard, c'est qu'Alexandre n'est pas chirurgien et son vrai nom n'est pas Alexandre. C'est une enquête vertigineuse dans le monde de la mythomanie, de l'invention à laquelle nous convie Sonia Kronlund dans « L'homme aux mille visages ». On la rejoint à Paris. Madame Kronlund, bonjour.
Bonjour.
D'abord, félicitations pour ce récit, c'est absolument fascinant. Ce mythomane, vous l'appelez Ricardo, expliquez aux gens ce que vous avez découvert en plongeant dans son histoire de multiples mensonges amoureux.
Donc en fait, ça a commencé avec une amie d'amis qui m'a contactée pour me raconter son histoire. Elle avait découvert, alors qu'elle était enceinte de 4 ou 5 mois, que l'homme avec lequel elle vivait, dont elle était enceinte, qui se prétendait Alexandre chirurgien, non seulement ne l'était pas, mais qu'il avait en même temps 4 autres identités différentes, c'est-à-dire des prénoms, des biographies familiales, des professions, ingénieurs, photographes, parfois militaires, et accompagnant ces quatre identités différentes, quatre autres femmes et foyers différents. C'est-à-dire qu'il avait quand même les clés de chez quatre autres femmes avec lesquelles il s'appelait Daniel, Ricardo, voilà. Donc elle plonge dans cette découverte vertigineuse. Et quand elle s'aperçoit de ça, elle a envie d'en parler, en fait, elle a envie de témoigner. Et donc, c'est pour ça qu'elle me contacte, et c'est le début de mon enquête, en fait.
Donc, cet homme-là avait 5 compagnes, et pas seulement en France.
Non, il avait des compagnes, il y en avait 2 en Pologne, et 3 en France. Plus de multiples autres relations à des degrés différents. C'est-à-dire, il préparait un peu ses arrières au cas où il allait être découvert. Donc, il avait quand même des contacts avec des filles en Suède, en Slovaquie, voilà, dans plein d'autres pays, mais des véritables foyers, en tout cas des relations suivies. Il en avait 5 en même temps.
Et quand Marianne découvre le pot aux roses à propos de Ricardo Alexandre, elle est enceinte. Quel effet est-ce que cette découverte-là a sur elle?
Je pense que c'est vraiment comme un bateau qui chavire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune terre ferme, on ne croit plus à rien, elle ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, c'est-à-dire y compris les sentiments, y compris les étreintes. Quand quelqu'un vous ment sur quelque chose d'aussi important que son identité, sa biographie, tout le reste valdingue en même temps. Donc je pense que c'est un sentiment de noyade assez épouvantable. Mais elle décide de prendre le dessus et de témoigner, ce qui n'est pas le cas des autres femmes que j'ai mis très longtemps à contacter et qui ont mis très longtemps à accepter de me parler.
Et ces autres femmes, elles sont contactées par Marianne, elles finissent par former un petit bloc. Cette découverte-là que leur conjoint, non seulement leur ment, mais aussi ne leur présente pas sa véritable identité, s'invente des métiers, des tempéraments, qu'est-ce que ça a comme effet dans leur vie?
C'est un effet dévastateur. Enfin, certaines ont honte, d'autres ont peur. Il y en a même une qui produit elle-même un mensonge, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dire à sa famille ce qu'elle a découvert sur son petit ami ou son compagnon. Elle va dire qu'il a été muté aux États-Unis et ainsi, elle parvient à finir cette histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des femmes qui ont des caractères très différents et des réactions très différentes. J'ai voulu insister sur ce point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil de victime, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a rien qui est dans leur caractère qui serait de leur faute, d'une certaine façon.
Ce qui est fascinant dans votre livre, Sonia Kronlund, L'homme aux 1000 visages, c'est que, vous le démontrez, il adapte son tempérament, sa personnalité même. Il ne fait pas que prétendre être un médecin ou un militaire, etc. Il change de personnalité. Racontez aux gens qui nous écoutent l'anecdote du mariage. Quand il croise une autre chirurgienne dans un mariage et qu'il est absolument irréprochable dans son rôle de chirurgien.
Non seulement il la croise, mais dans ce mariage où on lui avait dit « Tiens, tu verras, il y a une collègue à toi qui est là », en fait, on oublie de les présenter. Mais c'est la collègue qui va le reconnaître. Elle va fendre la foule et à un moment donné, elle va arriver devant lui et elle va lui dire « Je parie que c'est toi le deuxième chirurgien du thorax de cette soirée ». Donc, il a réussi à se façonner la tête de l'emploi. Mais pour répondre mieux à votre question, il y a autre chose, effectivement, c'est que quand les femmes se réunissent, à un moment donné, elles se disent « Non, mais en fait, c'est pas possible que ce soit le même, on n'est pas en train de parler du même homme. » Puisqu'il a, avec chacune d'entre elles, un tempérament différent. Avec l'une, il va être passionné, romantique, extravagant dans ses propositions, dans ses désirs. Et avec l'autre, c'est une sorte de bon père de famille qui se couche tôt à 6h le soir, qui est très calme. Et donc, elles vont être obligées de se montrer une photo pour être bien sûr que c'est le même homme. Donc, il est de ce point de vue assez génial. S'il ne faisait de mal à personne, on pourrait dire que c'est un homme extraordinaire.
Il a 1000 visages, ce Ricardo, et il a le visage qu'on veut bien lui donner quand on le regarde. Et vous racontez, Mme Cronlund, là, que les deux policières qui lui passent les menottes au Brésil, parce que vous êtes allé enquêter au Brésil dans, disons, la première incarnation de sa vie de fraudeur amoureux, et les deux policières le voient de façon radicalement différente.
Oui, alors c'était deux policières, une commissaire et son assistante que j'ai beaucoup aimée parce qu'elles en ont fait en fait l'affaire de leur vie. Elles m'ont raconté son arrestation avec une gourmandise qui m'a beaucoup à la fois amusée et touchée. Alors, il y en avait une qui le trouvait très beau et quand même assez sexy et l'autre qui pensait que c'était un vulgaire escroc, mais elles se sont quand même liguées toutes les deux pour l'arrêter et elles lui ont tendu un piège. Et elles étaient toutes contentes d'avoir triomphé de cet homme et d'avoir aussi vaincu les résistances de leurs collègues qui pensaient qu'elle n'y arriverait jamais, etc. Donc, il y a une petite victoire féministe aussi chez ces commissaires dans un Brésil probablement très macho il y a une quinzaine d'années.
En enquêtant, Sonia Kronlund, sur ce type, Ricardo, pour votre livre « L'homme aux mille visages », est-ce que vous avez découvert des choses sur, disons, les femmes et l'amour?
En fait, j'ai commencé cette enquête en 2017 et je peux dire que ça a coïncidé avec le début du mouvement MeToo. Et insensiblement, sans m'en rendre compte, je pense que j'ai avancé dans cette enquête en même temps que cette prise de conscience féministe et que plus les années allaient, plus je rencontrais des femmes en colère, en fait, et qui avaient vraiment envie de plus rester dans leur rôle de femme victime ou résignée, qui avaient envie de reprendre le pouvoir.
Sa motivation à ce Ricardo ne semble pas être l'argent. Quelle est sa motivation, vous pensez, à multiplier des vies amoureuses en parallèle comme ça?
En tout cas, c'est une hypothèse que je fais. Je pense que, en fait, un imposteur obéit à deux motivations. La première, c'est une motivation matérielle, c'est-à-dire qu'il va se servir de son mensonge pour obtenir des avantages, de l'argent, être hébergé, etc. Mais la deuxième est plus profonde. Et je crois que, en vérité, au bout de cette enquête, je pense qu'il a une certaine addiction au mensonge et un besoin de se raconter des vies, de s'inventer des vies. Mais vous voyez, un peu comme les enfants qui jouent aux policiers ou qui jouent à l'infirmière. C'est un besoin de peut-être, je suis pas psychologue, mais de combler une sorte de vide et en même temps d'éprouver une jouissance incroyable en s'inventant des vies de gens qui le font rêver et qui ne sont pas ce qu'il est.
Vous finissez par le retracer en Pologne, vous lui tendez un piège. Je veux pas vendre les punchs, là. Vous le rencontrez, mais vous ne le confrontez pas. Vous ne lui révélez pas votre but réel. Pourquoi?
Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas l'idée de départ. J'étais allée pour le rencontrer en me disant que j'allais le confronter. Et pour deux raisons, je ne l'ai pas faite. La première, c'est parce que je pense qu'à ce moment-là, ça aurait vraiment mis en danger l'une des femmes qui traversait un moment très pénible de sa vie. Et je ne voulais pas prendre le moindre risque qui se demande d'où je tenais toutes ces informations. Et le deuxième, c'est qu'en fait, j'ai approfondi quand même cette personnalité. J'ai bien compris qu'il ne me dirait jamais la vérité et que c'était plus intéressant d'observer quel nouveau mensonge il allait me fournir et de profiter en quelque sorte du spectacle de ce nouveau scénario qu'il m'a de fait proposé et qui était assez parfait, si on veut dire. C'est-à-dire qu'il a parfaitement répondu à ce qu'il croyait être mon attente.
J'allais vous demander, Sonia Kronlund, depuis la publication de L'homme aux mille visages, est-ce que Ricardo, l'homme aux mille visages, s'est manifesté?
Non, pas encore, non. Il s'est pas encore manifesté, mais nous, on a essayé de le rechercher parce que c'est quand même un texte que j'ai écrit il y a assez longtemps et on a essayé de savoir en engageant un détective privé parce que j'en ai déjà engagé deux, alors j'en ai engagé un troisième pour essayer de savoir s'il habitait toujours au même endroit et il aurait déménagé. Donc je ne sais pas exactement où il se trouve, mais je pense que tôt ou tard, il va découvrir l'existence de ce livre et je suis curieuse de savoir quelle sera sa réaction.
Est-ce que vous trouvez qu'il a un certain talent?
Ah oui, évidemment, il parle six langues couramment, il est extrêmement sympathique. Il a un grand talent de séducteur, mais pas seulement avec les femmes. Quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très sympathique. Simplement, si tout ça ne faisait de mal à personne, ce serait quelqu'un d'assez exceptionnel. Mais en l'occurrence, c'est extrêmement destructeur.
Et c'est un livre exceptionnel que vous signez, « L'homme aux mille visages ». Merci d'avoir été avec nous, Madame Kronlund.
Mais merci à vous de m'avoir reçu.
À la prochaine.
À bientôt.
C'était Sonia Kronlund, autrice du livre « L'homme aux mille visages », un portrait, une enquête fascinante dans le monde de la mythomanie.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va terminer l'émission avec Jean-Philippe Cipriani. Vous l'avez entendu à cette antenne. Il était dans l'émission de Marie-Claude Lavallée, oui, si je ne m'abuse. Absolument. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Journaliste et chroniqueur, collaborateur à l'actualité et aussi... Oui, ajuste ton micro. On a toujours des problèmes avec ce micro-là.
Ça va. Il baisse un peu comme certains sur le palmarès.
Donc, oui, on va parler du palmarès du magazine L'Actualité. C'est le deuxième exercice du genre. Palmarès qui dresse, disons, de façon subjective, évidemment, les 100 personnes les plus influentes au Québec. Il a participé à ça avec toute la rédaction, toute l'équipe du magazine L'Actualité. Donc, Jean-Philippe, je te salue officiellement.
Merci.
C'est un palmarès qui est controversé. Je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux. Qui est subjectif,
ouais.
Cette subjectivité-là, comment vous l'assumez à l'actualité?
Ben, elle est assumée parce que, d'une part, c'est pas scientifique. On a quand même des critères assez clairs. Il y a vraiment une méthodologie, là. Il y a trois critères principaux. Le pouvoir de l'institution de chacune des personnes qui se retrouvent dans ce palmarès-là. Le charisme, la personnalité de ces personnes-là. Et finalement, le désir de changer les choses. Puis il y a aussi un petit critère aussi. Est-ce que c'est en hausse ou ça en baisse, cette influence-là?
Oui.
Alors, au final, comme dit Claudine Saint-Germain dans son éditorial, qui l'explique très bien, c'est la volonté de changer les choses puis être en mesure de le faire. C'est un peu ça qu'on veut voir. C'est vraiment un polaroid de la société québécoise et de comment, qui sont les personnes qui influencent les politiques publiques, les politiques sociales, les politiques économiques, les politiques culturelles, de vraiment faire un portrait de ça.
On va revenir à la subjectivité tantôt,
ouais.
Et je peux te dire, Jean-Philippe, que les échos de la savane, disons, si je peux qualifier ça comme ça, il y a des gens qui se demandaient pourquoi un tel, une telle est en hausse, en baisse, pourquoi lui est avant, après, etc. On va revenir à ça. Il y a combien de personnes qui ont participé aux travaux pour dresser le palmarès des 100 personnes les plus
influentes? C'est l'ensemble de la rédaction de
l'actualité. Est-ce que c'est 20 personnes?
À peu près une vingtaine de personnes. C'est majoritairement féminin, d'ailleurs.
OK.
Et c'est tout le monde qui participe. Au départ, on a vraiment fait un appel à tous. Il y avait 220 noms sur cette liste-là. C'était quand même beaucoup. Puis ensuite, on a essayé de classer les gens, de le faire revoir et réviser par l'ensemble du monde et de voir est-ce que c'est logique que telle personne soit au-dessus de telle autre. Mais c'est vraiment un exercice collectif. C'est très le fun à faire, d'ailleurs. C'est vraiment très agréable.
Raconte-moi la scène, là. Vous êtes quoi, dans une grande salle? Tout le monde est là?
Non, mais maintenant, ça fonctionne surtout en virtuel. On avait vraiment un tableau Excel avec lequel on notait les gens selon les critères, selon la hausse, la baisse. Puis ensuite, on se dit, est-ce que c'est logique que cette personne... Ah, peut-être qu'on l'a mise un peu trop haute. Peut-être qu'elle n'a pas autant de charisme que ça ou que le pouvoir de l'institution n'est pas exactement le même si on compare une institution comparable... auquel on a mis tel point. Donc,
est-ce que les débats sont houleux?
Pas houleux, mais ça se discute, notamment par exemple la place des journalistes. On se demandait est-ce qu'on met des journalistes qui sont là, parce que c'est des collègues, des journalistes qui font
du reportage. Chantal Hébert qui écrit chez vous.
Ouais, Chantal Hébert, exactement. C'est une chroniqueuse. Est-ce qu'on met des journalistes par exemple? Est-ce qu'on a eu cette
Thomas
question-là?
Gerbet,
Thomas Gerbet,
par exemple, qui est extrêmement
qui
influent.
Beaucoup de choses,
de cette façon.
Et on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de journalistes qui font du reportage parce que on serait mal placé de parler de collègues comme ça. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait.
OK, Jean-Philippe, tu l'as dit, parmi le panel là, qui est composé des gens de la rédaction, la grande équipe de l'actualité, il y avait une majorité de femmes.
Oui.
Et ça, c'est un reproche que j'ai vu.
Oui.
Sur ta page Facebook, par exemple, Nathalie Collard, journaliste à la presse, qui dit, ben voyons donc, il manque de femmes dans ce dossier-là.
Il y en a le tiers.
Et il y en a le tiers, donc on est loin de la parité, disons ça comme ça, si on est en politique.
Oui.
Comment t'expliques ça?
Bien, parce que c'est effectivement un polaroid de la société et la société politique. Par exemple, lorsqu'on a le gouvernement Legault qui est, on dit souvent, gouvernement d'hommes d'affaires, ce sont des hommes avant tout, un homme premier ministre, le ministre le plus influent, c'est Pierre Fitzgibbon. La santé et l'éducation, c'est deux ministres hommes aussi. C'est un gouvernement où les grosses pointures du ministère.
Ce sont des hommes.
Ce sont des hommes. En matière, et en ce moment, oui, ils ont baissé dans les sondages, mais celui qui est premier en ce moment, c'est un parti qui est dirigé par un homme et qui a quatre députés hommes. Alors, la réalité, c'est que l'influence politique est davantage masculine. C'est la même chose, malheureusement, aussi sur le plan financier, en économie. C'est encore des hommes qui sont majoritairement PDG. Donc, c'est malheureux, c'est malheureusement un un reflet de la réalité et c'est un peu un appel à ce que les choses changent. Moi, je suis très content qu'il y ait des réactions comme ça. Ça m'aurait beaucoup peiné qu'il y ait une indifférence par rapport à ce palmarès-là, parce que ça démontre qu'il y a encore des avancées à faire.
C'est forcément subjectif, oui. On le disait, mais le panel est majoritairement féminin. Donc, le choix de 2/3 d'hommes dans les personnes les plus influentes, ce sont aussi le résultat de subjectivité féminine. Majoritairement féminine dans
le panel. Oui, et dans la perception de l'influence aussi, parce qu'on est évidemment, oui, c'est subjectif, oui, il y a des critères, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui est scientifique. C'est vraiment dans la perception et aussi ce qu'on fait. C'est pas juste entre nous autres qu'on décide telle personne est plus influente que telle autre. On fait des appels dans le monde politique, dans le monde financier, dans le monde culturel pour savoir est-ce que cette personne-là est vraiment influente ou est-ce qu'il y en a qui ont baissé, qui ont monté au fil des années aussi en fonction de l'importance qu'ils ont pris là-dessus. Je me souviens qu'en 2018, il y avait Brigitte Legault, celle qui recrutait les députés pour la CAQ qui était là. Elle n'est plus là maintenant parce que son influence réelle n'est pas aussi importante que ce qu'on aurait cru à l'époque.
J'en parlais tantôt avec Pierre-Yves McSween et aussi avec Catherine Beauchamp. Il n'y a pas d'influenceurs numériques là-dedans. Ceux qu'on appelle vraiment les influenceurs, les influenceuses. Catherine me disait, elle prenait l'exemple de l'influenceuse, la personnalité numérique, Lisandre Nadeau. Ce qu'elle m'expliquait, elle dit, cette femme là une grande influence, si elle opinait sur la politique, ben il y aurait un effet dans le réel. Il n'y a pas de monde qui vit que dans le web dans votre palmarès.
Non, il n'y en a pas parce que il n'y en a pas qui utilisent vraiment ce pouvoir-là pour influencer la société, pour influencer des politiques. C'est des gens populaires. Il ne faut pas mêler la popularité et l'influence. C'est quand même deux choses différentes. Il y a des personnes dans le palmarès qui sont très populaires mais qui sont absolument pas populaires. Je voulais dire, Dominique Savoie, il n'y a pas grand monde qui sait c'est qui. La grande patronne des fonctionnaires. Pourtant, son institution, le pouvoir qu'elle a est très important, mais on mettra pas Céline Dion, par exemple, parce que Céline Dion qui aurait une influence très importante si elle décidait que sa cause c'était les changements climatiques ou c'était ci ou c'était ça, si elle appelait le premier ministre, probablement qu'elle aurait une influence. Elle n'utilise pas ce pouvoir-là, elle n'est pas dans le palmarès.
OK, Véronique Cloutier est dans le palmarès. Oui. Comment a-t-on estimé à l'actualité que Véronique utilisait son pouvoir, son influence?
Ben, elle a quand même fait changer des politiques sur les hormones féminines avec le ministre Christian Dubé, qui lui a annoncé ça même dans l'épilogue de son documentaire.
Avec l'auto-méno,
exactement. C'est pas n'importe quoi. Donc, si Véronique Cloutier le dit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parlait des hormones bioidentiques depuis longtemps, elle, en faisant ça, a eu une influence réelle. C'est je pense, un des parfaits exemples qu'on peut trouver là.
OK. Là, on va jouer au jeu des subjectivités, OK? Vous m'avez mis au palmarès de l'actualité, au 11e rang, OK? Puis
je sais que tu es déçu.
Non, je suis absolument pas déçu. Juste d'être là, c'est correct. Mais ce que je veux dire, OK, vous dites que ma popularité est en hausse. Mon influence est en hausse. Oui. Pourtant, il y a 5 ans, dans le même palmarès, j'étais au 11e rang. Oui. Comment je peux être en hausse si mon influence, si je suis au même rang?
Tu es en hausse parce que tu t'en vas animer le show le plus écouté au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on te met en hausse, parce que ta cote va monter, parce que tu vas remplacer Paul Arcan à partir de l'automne le matin. Donc, évidemment, c'est en hausse. Paul, qui est un petit peu plus haut, qui est deux rangs au-dessus, lui, c'est en baisse parce qu'il s'en va, il va quitter ce siège-là. Donc.
Ben, c'est en baisse. OK, juste une seconde.
Ah, c'est en légère baisse, là, peut-être.
Non.
On peut avoir des surprises en 5 ans.
OK, je veux qu'on parle de ça, parce que quand j'avais été mis au 11e rang en 2019, Jean-Philippe Cipriani, Paul Arcan, animateur à l'époque et encore aujourd'hui de l'émission la plus écoutée à la radio au Canada, était 17e. Et je me suis dit, non, la place de Paul, c'est en avant de moi.
Ouais.
Mais explique-moi cette subjectivité-là et on va en prendre d'autres pour le plaisir de l'exercice.
Oui, mais à l'époque, je me souviens qu'on avait notamment souligné le fait qu'il n'animait à Montréal. Il n'animait pas dans l'ensemble du Québec. Et on se disait, peut-être que ça...
C'est encore le cas aujourd'hui, c'est le même marché.
Exactement, mais depuis, il y a eu sa série documentaire aussi, Les collectionneurs d'enfants, qui parlait de la DPJ, qui a été beaucoup, beaucoup dans l'actualité. Donc, il y a d'autres éléments. Il y a aussi le fait que la faune médiatique s'est réduite depuis 5 ans, malheureusement. Donc, ça le fait peut-être monter aussi dans le palmarès, parce qu'il y en a moins du monde qui travaille dans les médias qu'il y en avait il y a 5 ans.
OK. Il y a le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, qui est 14e. Et Dieu sait que c'est une personne influente. Je veux dire, il dirige, on comprend, là, c'est très collégial. le plus haut tribunal du pays qui change des lois, qui crée de la jurisprudence, ouais, etc. Dans quel univers parallèle je suis plus influent que lui?
Ben, sur la société, je ne sais pas à quel point Richard Wagner, disons qu'il choisit ses entrevues. Oui. Il est pas, il a un devoir de réserve, ce que t'as pas du tout. J'aimerais te l'annoncer.
Rarement.
Donc, il y a beaucoup de facteurs, mais Richard Wagner, effectivement, et l'influence, c'est sur le Québec. Richard Wagner a une influence très canadienne à l'échelle du pays. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de subtilités. Puis c'est pas un palmarès parfait non plus. Je pense que les gens ont beaucoup de plaisir puis de fun à tourner les pages puis à chercher qui,
oui, oui, évidemment,
quel rang. Il y a un côté très ludique à ça, mais effectivement, je pense que l'influence, tu sais, il faut savoir de quelle influence on parle, oui, aussi. T'sais.
Ça aussi, c'est subjectif.
Oui, l'influence est subjectif. L'influence des influenceurs, comme dont parlait Catherine, c'est pas la même influence que quelqu'un qui a une influence en politique, qu'un Martin Koskinen va avoir, oui, par exemple, sur les politiques du gouvernement.
Parce qu'il est chef de cabinet, même si c'est un homme de l'ombre.
Voilà.
Jean-Philippe Cipriani, est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui vont faire connaître leur mécontentement à la rédaction de l'actualité par rapport à leur position dans le palmarès?
Je ne sais pas cette fois-ci. Il y a 5 ans, ce n'était pas arrivé. En fait, il y avait eu une seule réaction négative, mais ce n'était pas par rapport au rang.
C'était
par rapport, c'est Guy Cormier qui était
le PDG de Desjardins,
qui était il était déçu qu'on ait écrit dans le texte que Desjardins ressemblait de plus en plus à une banque. Alors ça l'avait choqué.
D'aucuns diraient que c'est vrai.
Ben
ça a été dit.
Je te laisse le dire,
c'est la seule réaction officielle que vous avez eue, mais quand même là, il y a ce qu'on appelle des back channels.
Ouais.
Il y a des gens qui doivent dire, hey, comment se fait que je suis juste 62e ou 47e?
C'est peut-être allé à la rédaction en chef à l'époque.
Moi,
j'en ai pas entendu parler.
Est-ce que, sachant que t'es dans le palmarès, dans l'équipe qui crée le palmarès de l'actualité avec tes camarades là-bas, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de t'influencer?
Non. Ben non. Non, mais les gens savaient même pas qu'on était là.
Non, c'est assez secret.
Ben oui. Oui, on travaille pas en disant à tout le monde, hey, on fait un palmarès. Non.
Pourquoi c'est pas annuel?
Parce que ça deviendrait un peu redondant. Je pense qu'aux 5 ans, ça donne une radiographie. Tu sais, il y a quand même les 2/3 des membres de ce palmarès-là qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Donc, ça montre une évolution. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de voir ça sur 5 ans. Si on le faisait, oui, année après année...
Ça perd de son impact?
Oui, un petit peu, je dirais.
OK, comme il y a 2/3 des personnes qui n'étaient pas là...
Oui.
Même si je fais du surplace, je devrais être content, Jean-Philippe.
Bien sûr, je pense que oui. Mais je pense qu'il y a encore place d'amélioration, Patrick.
Il n'en tient qu'à vous autres. Hein? C'est ça, changer, arrêter d'écouter Radio-Canada. Non, c'est une blague. Dernière question. C'est bon pour l'actualité, ça. C'est bon pour le magazine. Je veux dire, j'ai pas entendu parler de l'actualité depuis longtemps comme j'en ai entendu parler aujourd'hui.
Il y a un élément
de promotion là-dedans.
Je le souhaite. En même temps, je ne veux pas parler au nom de Claudine Saint-Germain. Parce que moi,
la rédactrice en chef.
Oui, exactement. Ouais. Parce que moi, je suis pigiste maintenant. Je suis plus à l'actualité comme j'étais auparavant dans mon ancien poste. Là. Je suis un petit peu hybride. Mais bien sûr qu'on aime la réaction que ça procure puis que ça a, parce que effectivement, je pense que les gens ont beaucoup de plaisir aussi à le feuilleter.
Et donc le prochain rendez-vous dans 5 ans, 2029?
Oui, prochain rendez-vous dans 5 ans, même jour, même, enfin,
ouais. T'es pas dans une chanson de Patrick Bruel?
Non, hein.
Bon, OK. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Plaisir.
C'est un exercice
fascinant,
et je dois le dire, Jean-Philippe Cipriani, il n'y a pas eu vraiment de réaction, mais je te le dis, les échos de la savane, on va dire ça comme ça, il y a des gens qui étaient déçus, il y a des gens qui...
Est-ce que tu connais mieux la savane que moi?
Oui, ouais. j'ai en faisant partie, mais voilà, il y a des gens qui étaient déçus de leur positionnement ou de ne pas être dedans aussi. Mm.
Il y en a beaucoup qui étaient sur le bord de la
Ça question. Sent les pots de vin pour 2029. Oui, hein, mais c'est pas vrai. Hein.
Mais je comprends. Bien sûr.
C'était Jean-Philippe Cipriani qui parlait au nom de l'équipe de ce panel qui a composé le palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec, selon le magazine L'Actualité.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Notre ami MC Gilles a été un des premiers à avoir une plaque personnalisée au Québec. C'est populaire en Ontario depuis longtemps. C'est quoi une plaque personnalisée? Ben, vous pouvez mettre une série de mots ou une série de lettres qui vont former un mot ou pas. Des chiffres de votre cru, de votre choix. La Société de l'assurance automobile du Québec a longtemps résisté et en 2018, on a dit go. Et notre ami M. Gilles a opté pour le mot rigueur. Il y a plein de gens qui décident de payer le supplément pour avoir une plaque personnalisée. Et aujourd'hui, dans la presse, Bruno Marcotte, journaliste, a eu une belle et bonne idée. Il a eu l'idée de recenser d'abord les statistiques sur les plaques personnalisées et aussi les mots qui sont refusés par la SAAC. Le journaliste Bruno Marcotte est en studio. Salut, Bruno.
Salut, ça va bien?
Oui, toi?
Ça va,
qu'est-ce qui t'a donné, l'idée de... approche un peu du micro. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de plonger dans l'univers des plaques personnalisées?
Ben, écoute, c'est un document qu'un collègue à moi a obtenu en vertu d'une demande d'accès à l'information qui s'est retrouvé un peu à tout hasard entre mes mains. Puis moi, j'ai passé la soirée hier à m'amuser à recenser les noms qui ont été refusés, les combinaisons qui n'ont pas été autorisées par la SAAC. Et il y en a beaucoup. C'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Il y en a 140 000, au-dessus de 140 000. C'est un document plutôt exhaustif.
Ils t'ont envoyé la liste des 144 000 termes refusés.
Exactement, exactement. Fait que 3 000 pages à raison de 50 refus à peu près par page. T'auras deviné que je l'ai pas regardé au complet.
C'est décevant. Je m'attendais à plus de rigueur journalistique, Bruno.
Vois-tu, j'ai pas de plaque qui dit rigueur. C'est peut-être pour ça aussi.
C'est pour ça.
Puis, c'est ça, dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que la SAC va refuser une demande. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que des mots comme CAC, PQ, Trump, Biden ont été refusés notamment. Je me demandais si c'était en raison d'une allégeance politique ou quoi que ce soit. Cela dit, j'ai eu un peu de précision ce matin de la part de la SAC. Puis, la CAC, par exemple, a été refusée, le mot CAQ, parce que c'est déjà octroyé à un autre citoyen. Donc là, ça tombe sous le sens un peu que deux personnes ne puissent pas avoir la même plaque.
OK. Au Québec, d'abord, on peut avoir PLQ, CAQ ou autre. Là, il n'y a pas quoi, pas de filtre partisan, mais pour la politique américaine, il y en a un?
Et c'est plus compliqué que ça encore, parce que même au Québec, ça peut être refusé. PQ a été refusé parce que c'est une marque de commerce qui est déposée au registraire des entreprises.
Okay.
Même chose pour Trump. Biden, par contre, ce qu'on me disait, c'est que ce serait une combinaison qui pourrait être acceptée. Dans le cas qui nous intéressait ce matin, ce que j'écrivais, c'est que ça avait été refusé. Biden 20 avait été refusé. Mais ce qu'on m'a expliqué par la suite, c'est que pour les combinaisons de 5 à 7 caractères, il ne peut pas y avoir deux chiffres collés. Donc, Biden 20, 2-0, la SAC a refusé d'emblée cette demande-là.
OK. Et j'ai compris, je ne savais pas ça, j'ai pris connaissance de ça dans ton texte dans la presse aujourd'hui, Bruno. Il y a un filtre qui est fait par un robot là, sur les termes acceptables ou pas.
Absolument. Puis, j'ai pas été en mesure d'avoir le chiffre exact de filtres qui sont faits à première lecture par le robot. Mais je pense qu'on peut deviner, par exemple, quand c'est un cas où il y a deux chiffres collés, sans doute que c'est filtré automatiquement. Il y a sans doute, j'ai pas de réponse de la SAC de ce côté-là. Il y a sans doute des termes qui sont filtrés automatiquement, des termes qui sont peut-être grossiers, qui ne sont même pas camouflés. Mais voilà. Donc, il y a un premier filtre, puis il peut avoir également analyse plus poussée quand c'est plus litigieux.
OK. Et on dirait qu'il y a des petits comiques qui ont essayé de se composer des plaques personnalisées qui seraient, disons, un peu mêlantes pour l'œil humain. Là.
Absolument. Des combinaisons de lettres, des alternances de X, de V, de M, de N, tout ça. Puis ça, c'est un autre critère de la SAC, c'est qu'il faut que ce soit lisible pour des raisons plutôt intuitive. Là, je présume c'est pour qu'on puisse la reconnaître.
Comme KXKKXXK.
Oui.
Je veux dire, l'œil humain peut pas dire au policier le char qui a volé à la banque, c'était cette plaque-là.
C'est plutôt difficile à ce moment-là, effectivement.
OK. Puis la SAAC est un peu sensible, Bruno, semble-t-il, sur ce qui fait référence à la SAAC dans les plaques personnalisées.
Oui. Bien, écoutez, j'ai pas été en mesure de savoir si c'était parce que la SAAC est aussi au registraire des entreprises. Sinon, il y a un autre critère là qu'il faut pas, je l'ai pas devant moi, mais qu'il faut pas se faire passer pour un organisme gouvernemental. Puis la SAAC en est un. Donc, à ce moment-là, est-ce que les refus se font d'emblée? Ce serait à vérifier.
Autre élément intéressant de ton texte, c'est que il y a de moins en moins de plaques personnalisées qui sont réclamés par les Québécois. En 2018, il y a eu un sommet. Là, on était à près de 25 000, 23 000, je pense. Et là, en 2023, on était un peu en dessous de la barre des 5 000 plaques personnalisées. Qu'est-ce qui explique ça?
C'est dur de savoir qu'est-ce qui explique ça précisément parce que j'ai pas le chiffre pour les demandes qui ont été faites par les Québécois. J'ai le nombre de plaques qui a été délivré. Donc, c'est passé de un peu plus de 23 000 à la première année du programme à moins de 5 000 l'année dernière. Et on peut peut-être supposer, là, puis c'est en toute logique, quand une demande pour une plaque est faite et acceptée, elle ne peut pas être accepté de nouveau.
Okay.
Donc, le bon MC Gilles a pris rigueur. Moi, si je veux prendre rigueur,
je peux pas le prendre.
Tout simplement. Même si elle a été acceptée en première instance, si on veut.
OK. Fait qu'on peut penser qu'en 2018, le bassin de mots disponibles, de termes disponibles était immense. Et là, rendu en 2023-24, ben, il est plus petit, fait qu'il y a moins de gens qui en demandent, qui sont prêts à payer pour ça.
Semble-t-il qu'il y en aurait certains qui sont déjà pris, effectivement. Donc.
Combien ça coûte une plaque personnalisée, Bruno?
Pour l'avoir, initialement, c'est autour de 280 $. Puis après, il y a des frais supplémentaires également annuels. Si je me souviens bien, c'est autour de 38 $. On parle d'une quarantaine de dollars. Donc, c'est un choix que certaines personnes vont faire de se procurer cette plaque-là. Mais il y a quand même un coût qui est associé à tout ça.
Très intéressant. Écoute, pour ton prochain papier, j'aimerais ça que tu me trouves les mots les plus originaux qu'on peut voir sur les plaques minéralogiques au Québec.
Ben, il y en a beaucoup. Assurément, j'aurais de quoi fouiller dans ces 140 000 plaques.
On te réinvitera. Merci beaucoup, Bruno.
Merci à toi encore une fois.
Bruno Marcotte, journaliste à La Presse.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.